Lectures intentionnelles, les dérives auditives de la mer salée, les dérives indisciplinées d'une maison d'édition qui croit dans le pouvoir subversif des livres, dans leur capacité à mettre du vent dans les idées, à attiser le désir d'un autre monde, à libérer nos utopies, pour penser ce qui est et imaginer ce qui pourrait être. Il en va du droit de vote des femmes comme de n'importe quel droit. De tout temps, l'histoire de l'humanité a progressé grâce à des gens peu nombreux qui se sont battus, ont pris des risques, incompris dans leur époque. Et depuis, nous profitons de leur combat, sans même nous en rendre compte. Sans eux, sans elles, nos vies seraient beaucoup moins justes. Aujourd'hui, d'une manière inédite, car cela touche tous les domaines, en défendant nos utopies, nous défendons le monde que nous voulons voir advenir. L'époque est tragique, parce que sur bien des plans il y a menace. L'époque est sublime, parce qu'elle nous réveille. Depuis que je suis petite, je me demande si j'aurais été résistante pendant la guerre. Peu de chance, il et elle n'étaient que 2 à 3 % de la population. Et puis, aurais-je été une suffragette ? Aurais-je fait partie de cette toute petite minorité de femmes qui défendaient leur droit de voter ? Ou aurais-je été parmi celles, majoritaires, qui leur crachaient dessus ? Cette préoccupation est devenue un livre, « Les suspendus », publié en novembre 2016. Un livre né d'une urgence qui me brûlait. De toutes parts, il y avait la colère, l'injustice, la nature meurtrie, notre avenir sacrifié, le monde allait mal. Ce n'était plus possible. Nous n'avions plus le temps. Je suis rentrée d'une heure de marche et j'ai écrit une première page. J'ai écrit sur la radicalité. Une étiquette que je sentais sur moi planer. J'avais eu le tort de dénoncer un projet qui allait contribuer à une destruction environnementale irréversible. J'étais, nous étions, devenus des radicaux, aux yeux des autres. Radicaux, ceux et celles qui défendaient un autre modèle, qui donnaient la priorité à la vie, la nature, aux humains. Radicaux, ceux et celles qui s'interrogeaient, revoyaient leur mode de vie, poussaient les entreprises dans leurs questionnements. Radicaux, ceux et celles qui ne voulaient pas que la santé de leurs enfants soit l'objet d'un compromis, d'une négociation avec la croissance et ses dommages collatéraux. Radical, c'était le mot qui claquait comme une fin de non-recevoir, à l'exigence d'une vie meilleure, au respect de la vie tout court. Le 12 décembre 2015, à la Marche mondiale pour le climat, clôturant la COP21, marche d'abord interdite pour cause d'état d'urgence, j'ai vu cette toile tendue sur les statues du Trocadéro. L'histoire ne s'est pas faite en demandant la permission. Depuis quelques mois, mes recherches m'amenaient à cette observation. L'histoire de l'humanité avait avancé grâce à des gens contestataires de leur époque. J'ai voulu étudier comment ils avaient réussi, qui ils étaient. Évidemment, en regardant les désobéissants, les utopistes, les non-résignés, celles et ceux qui se sont dressés contre Vichy, ont combattu l'esclavage, la ségrégation, l'apartheid, se sont battus pour l'égalité, forcément, on s'interroge sur les autres, la très grande majorité, ceux et celles qui n'ont rien fait, qui ont collaboré, fermé les yeux, qui se sont opposés à ces hommes et ces femmes qui défendaient de justes causes. Des causes contre lesquelles bien peu s'opposeraient aujourd'hui. Cette recherche commençait à résonner avec notre époque. Le repli sécuritaire, l'état d'urgence imposé que tout le monde avait accepté, la passivité, les lois liberticides ou meurtrières, les projets inutiles et mortifères, les scandales sans condamnation. Nous refusions d'accueillir les exilés, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces ados, ces bébés qui fuyaient leur pays en guerre ou les effets de nos dérèglements climatiques. Ceux qui les aidaient étaient punis, délits de solidarité. Et puis, à un autre niveau, nous collaborions à l'extinction des espèces animales, végétales, à la détérioration de la qualité de vie de nos enfants et d'autres peuples. J'ai décidé d'explorer un sujet qui me faisait froid dans le dos, celui de la soumission à l'autorité, l'obéissance aux ordres, même les plus indignes, même contre nos intérêts. Pourquoi étions-nous tellement dociles, vulnérables ? Quand l'indigne s'institutionnalise-t-il? Quand l'indifférence, la méchanceté deviennent-elles banales? Quand la servitude devient-elle volontaire, la soumission silencieuse? Quand tout cela devient-il la norme, le politiquement correct? Et quand les désirs de justice, de liberté deviennent-ils mal perçus, illégitimes, hors la loi? Quand et comment? Pourquoi certains y succombent-ils et pas d'autres? Faut-il passer en dissidence? Comment supporter la réprobation de la majorité? Pourquoi certains suivent-ils des ordres absurdes, le sens de la marche, tout en souffrant? Peuvent-ils en sortir? Et ceux qui résistent, peuvent-ils réussir? Nous sommes tous potentiellement et collectivement les héros et héroïnes d'une révolution pour que ce monde aille mieux. Nous avons à faire des choix. On y est. La majorité d'entre nous pense ne pas avoir de choix. Ce sentiment d'impuissance est intimement lié à notre pratique de la servitude volontaire. À l'inverse, notre foi en nous est liée à l'exercice de notre liberté personnelle. Or, nous en avons perdu la pratique. Pire, nous avons abdiqué. On nous a désappris à user de cette liberté, désappris à nous mêler du monde, à nous impliquer, désappris le goût du collectif, la confiance en l'autre, en nous, désappris le risque, l'audace. Nous nous en remettons aux politiques. Nous cultivons le mythe des héros, ces surhommes qui peuvent nous sauver. Un mythe qui tétanise l'être ordinaire que nous pensons être. Pourtant, il n'y a pas vraiment de héros. Il y a des gens plus libres que d'autres, persévérants, d'une forte ossature intérieure. Ce qu'il y a de fascinant dans les grandes figures historiques, c'est leur vulnérabilité, leurs errements, leurs contradictions, et par-delà tout cela, leur détermination. Nous portons tous et toutes en nous la clairvoyance et le pouvoir des êtres libres. Nous portons tous et toutes aussi le risque d'être les exécutants des pires tâches. En être conscient est le premier pas pour l'éviter. On aimerait que ceux qui commettent des crimes barbares, les collabos, les nazis, soient des fous, des sadiques ou contraints. Pourtant, il n'en est rien. Cela nous rassure à défaut d'être la réalité. Il y a une zone grise, comme l'appelle Primo Levi, une zone aux contours flous, entre bien et mal. Et par cette zone grise, nous sommes tous et toutes tentés. Admettons la gravité de notre époque. Elle est tragique. Elle est sublime aussi. Tout peut arriver. La vraie question face à ce monde violent, insensé et injuste, c'est: va-t-on subir encore longtemps? Admettre sans rien tenter? Non seulement nous avons le choix, non seulement nos choix peuvent changer radicalement les choses, mais en outre, ces choix sont porteurs de notre accomplissement. Voilà pourquoi cette période est sublime. Elle nous donne cette opportunité. Elle nous pousse à nous dépasser, à grandir. Même si nous ne sommes pas assurés du résultat, on y trouve des gens inspirants, du relief à nos vies, des liens, des alliés, des projets. Nous participons à quelque chose de plus grand que nous et nous montrons à nos enfants que la résignation n'est pas une option. Nous sommes aujourd'hui face à deux forces opposées. Oui, opposées. D'un côté, l'escalade sécuritaire, l'entêtement du vieux monde, la fuite en avant vers l'impasse écologique, économique et sociale, et de l'autre, l'explosion d'initiatives à contre-courant, de citoyens, d'élus, d'entreprises, un mouvement où le local rejoint le mondial. Nous avons une double perspective, sauver l'humanité et sauver notre part d'humanité. Nous sommes engagés de fait dans cette époque, on ne peut l'ignorer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes solidaires de ce monde. Nous pouvons nous conformer, faire de grands discours, justifier, accuser. Cela ne nous désolidarisera pas de ce contexte. Chacun de nos choix et de nos actes est un engagement pour concrètement améliorer l'époque ou participer à sa médiocrité. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y prendre part. Alors autant prendre parti. Comme le disait le philosophe André Glucksmann, l'histoire demeure tragique. C'est le lieu des défis, de notre inaction, de nos complaisances ou de nos résistances. Nous sommes jetés dans une époque historique. Cela ne fait aucun doute. Plus que jamais, nous devrions continuer à défendre nos idéaux, sans douter de la légitimité de le faire. L'histoire est suspendue à ce que nous choisirons. Toutes les explorations de ce livre mènent à une seule question radicale. Que vais-je faire de mon vivant? De cette chance de vie qui m'est donnée? Entre la vérité qui questionne et un délire logique qui tient des certitudes, l'être humain choisit le délire. Les certitudes sont nos pires faiblesses. Elles nous sécurisent, nous aveuglent. Des certitudes, c'est ce que nous garantissent les religions, les idéologies, les politiques, la loi du progrès, de la science, la loi de l'économie. Chacune d'entre elles est une, supérieure, transcendante. Elle disqualifie toute alternative ou tout amendement. C'est la loi suprême, sans débat possible. Terrifiant, dit ainsi, mais confortable à vivre. Ce délire ne débarque pas un jour. Il se prépare, il monte. Un cadre se met en place. Ainsi, ceux et celles qui alertent au premier signe passent pour des théoriciens du complot, des paranos, ils exagèrent. Et quand une action, une loi, un propos fait clairement la bascule vers le totalitarisme, l'absurdité ou l'inacceptable, plus personne ne peut s'y opposer. Cela devrait sauter aux yeux. Un cap tragique a été passé, mais le mal est fait. La nouvelle norme s'est installée, l'air de rien. Pour la majorité, cela a toutes les apparences de la logique ou de la fatalité. Pour les lanceurs d'alerte du départ, il est devenu impossible d'aller contre, sans devenir un opposant qui menace une harmonie sociale et défie un système de croyances. Une croyance, en apparence totalement rationnelle, convoque l'urgence, la sécurité, l'intérêt de la nation, une nécessité. On peut faire taire le plus petit début de conscience, de doute ou d'indignation avec pour mobile la nécessité. Qui peut aller contre le droit à nous défendre? Tout le monde suit un tyran ou un gouvernement qui parle de protection ou de vengeance. Cela tait les critiques, étouffe les doutes, proscrit la nuance. La moindre objection ou question est assimilée à une traîtrise, une lâcheté, de l'angélisme ou de l'irresponsabilité. Alors on se range derrière, tous et tout ensemble, unis par une crainte partagée, à nouveau fier et battant, le nouveau ciment d'un peuple qui n'en avait plus. L'exagération de la menace est sciemment utilisée par les tyrans et les gouvernements qui veulent justifier des privations de liberté d'abord, puis des actes violents. Nous acceptons cette distorsion de la réalité car elle nous permet de faire diversion, de fuir ce que nous acceptons, tolérons, ce que nous sommes amenés à faire. C'est ainsi que l'on réprime l'angoisse de la responsabilité, que l'on se protège de l'horreur ou de l'aberration de nos actes. La soumission à l'autorité se nourrit d'une réassurance. Pensez que si ce n'est pas vous qui le faites, d'autres le feront. Pensez que si vous refusez de le faire, c'est une goutte d'eau. C'est faux. Cela change quelque chose pour vous, profondément, pour l'enchaînement de l'ignoble et pour le respect de vous-même. Et puis, un système, même s'il est en route, a besoin de bras pour l'appliquer. Celui qui refuse brise l'illusion du consensus apparent, ouvre une brèche. Il autorise d'autres à en faire autant, les inspire. Certains vous feront croire qu'un refus ne changera rien. Penser qu'ils auraient un effet en refusant engage leur responsabilité. Vous voir refuser signifie que c'est important, possible, et qu'ils n'ont aucune raison de ne pas le faire. Seul compte l'audace, le courage, l'autonomie. Et donc, qu'ils manquent de tout cela. Bien évidemment, ils feront tout pour vous décourager. La première petite compromission engage les autres. Or, c'est la plus simple à refuser. Ce petit acte n'apparaît pas comme décisif au moment où il se pose. Ce n'est que rétrospectivement que l'on distingue ce premier geste. Notre corps, lui, le perçoit toujours. Notre cerveau négociait. Ce n'est pas notre responsabilité, ou ce n'est pas si grave. S'il y a justification, il y a embarras. C'est la zone grise. Osons regarder ce qui nous tourmente un peu. Nous devrions vivre pleinement chacun de nos choix pour en ressentir la portée. Se sentir engagé dans chaque décision, en conscience. Considérer que chaque acte est un choix. Tous. Des choix qui portent ce que nous sommes. Car après, quand les choix s'enchaînent, on a tendance à consolider pour valider nos décisions précédentes, dans un souci de cohérence. Dire stop, c'est se désavouer. Couper court à cette loyauté envers nous-mêmes. C'est aussi cela qu'il faut changer. Tentons de lâcher l'obstination. Accueillons l'inconstance. Désobéir, c'est en premier lieu s'autoriser à désobéir à soi-même, le moment venu. Désobéir au soi qui s'est fabriqué, pour obéir au soi profond, celui qui porte nos valeurs. En notre fort intérieur, nous savons quand nous agissons en désaccord avec nous-mêmes. La lutte est là. Elle tourmente tous les exécuteurs. Refuser est un moment sacré. Le moment qui vous fait grandir en humanité et vous rapproche de qui vous êtes. Quand Hannah Arendt, en étudiant les nazis et le procès de Eichmann, en est venue à parler de la banalité du mal, elle ne voulait pas dire qu'un Eichmann sommeillait en chacun de nous. Ce qu'elle a compris, c'est que le mal se logeait dans la bêtise humaine. Le mal, dit-elle, est un phénomène de surface. On résiste au mal en s'arrêtant et en réfléchissant, en dépassant l'horizon du quotidien. Eichmann suivait bêtement une idéologie. Il était incapable de penser par lui-même, incapable de penser depuis le point de vue de quelqu'un d'autre. La banalité du mal, c'est quand la pensée et la conscience morale sont comme entre parenthèses. La clairvoyance naît de notre jugement moral d'adulte. Cette première désobéissance de la pensée est la clé, celle qui de tout temps a amené les peuples à faire avancer les choses. Quand on commence à questionner les vérités d'État, à scruter les informations largement propagées, c'est la fin de l'apathie. On reprend un pouvoir, celui de former sa propre vérité. La vérité est un premier combat fondamental. Difficile, car avec la vérité vient la responsabilité. Trouver la vérité implique de la chercher. Il y a du plaisir et du confort dans la servitude et la crédulité. Pour en sortir, on va douter, enquêter, recouper. Cela demande un travail long, sans certitude. À l'opposé de cet effort, il y a la propagande et ses clichés rassurants, rassembleurs, flatteurs, galvanisants. Hannah Arendt ajoute « Un des indices de la superficialité, de la banalité du mal, est l'usage des clichés. » Plus un mensonge est gros, plus il a de chances de s'imposer, à condition d'être crié assez fort et répété assez souvent. Une information lisse, manipulée par l'urgence, le goût de la petite phrase et la désignation d'ennemis. Pour la pensée aussi, nous devenons assister. En 1933, Hannah Arendt observait que parmi les plus soumis à la pensée propagande, on trouvait beaucoup d'intellectuels et une partie des journalistes. Au cœur de l'information, ils ne peuvent imaginer participer à la désinformation. Ils contribuent au récit de fiction. Que l'on mette en difficulté les lanceurs d'alerte devrait nous alerter. Que l'on raille les personnes qui cherchent une autre vérité aussi. C'est que nous touchons à une mystification, donc à un système de croyances, de propagande, d'intérêts particuliers. Que l'on entre dans une pensée de cliché, sans nuance, assénée, comme autant de certitudes, devrait également nous alerter. Vous venez d'écouter des extraits du livre « Les Suspendus » de Sandrine Roudeau, paru en 2016 aux éditions La Mer Salée. Ce livre raconte les personnes et les mouvements qui ont changé d'histoire. Il explore les mécanismes de soumission à l'autorité, au conformisme et à la résignation, la désobéissance aux horizons de l'époque et les liens entre l'engagement et le bonheur. Comment nous pouvons nous accomplir en nous mêlant du monde. J'ai également publié L'Utopie mode d'emploi, un essai sur les leviers pour changer le monde, et Les Déliés, un roman qui imagine comment des femmes font basculer le monde du côté lumineux. Je suis également perspectiviste, coéditrice de La Mer Salée et lectrice de ce podcast.